Notre Dieu, notre Père, tu es en effet ineffable et redoutable. Et à l'heure où nous nous apprêtons à ouvrir ta parole, la Bible, nous prions que tu ouvres nos cœurs, que tu nous fasses trembler si nécessaire, que tu inspires en nous le respect dont tu es digne. Nous prions aussi que tu nous encourages, que tu nous fasses du bien, que tu nous aides à avoir une vision juste et grande, très grande, de ta personne. Alors s'il te plaît, ce matin, nous prions que ton Saint-Esprit s'empare de ta parole pour l'appliquer puissamment et profondément à nos cœurs. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Pourquoi ça m'arrive à moi? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Moi, je me la suis posée pas plus tard que cette semaine. Pourquoi ça m'arrive à moi? Comme nous l'avons vu dans le prologue, vous vous rappelez du livre de Job, les deux premiers chapitres, Job est un homme intègre et droit, c'est Dieu lui-même qui le dit. Un homme intègre et droit, ça ne veut pas dire que c'est un homme sans péché, seul le Seigneur Jésus est sans péché, mais c'est un homme intègre et droit qui souffre alors qu'il n'a strictement rien fait pour mériter ça. C'est un homme qui cherche le sens de ses souffrances. Pourquoi est-ce que je souffre? C'est un homme qui pose des questions à Dieu, qui cherche Dieu. Au chapitre 23 et au verset, des versets 1 à 5, il dira si seulement je pouvais parler à Dieu. C'est un homme qui exige une réponse de sa part. Au chapitre 31, au verset 35, si seulement il pouvait me répondre, si seulement Dieu pouvait me répondre. Mais Dieu ne lui répond pas. Pas pour l'instant en tout cas. Et comme nous l'avons vu il y a deux semaines, ce n'est en fait qu'après l'intervention d'Éliou, vous vous rappelez d'Éliou, ce personnage mystérieux, énigmatique, qui explique à Job, vous vous rappelez, que ses souffrances sont les conséquences, tout simplement, de la discipline de Dieu. Job, autrement dit, si tu souffres, c'est parce que Dieu te discipline. C'est la compréhension d'Éliou, du problème de Job. Et ce n'est qu'après l'intervention d'Éliou que Dieu, dans sa souveraineté, dans sa sagesse, donnera finalement une réponse à Job. Mais une réponse, comment dire, à laquelle Job ne s'attendait pas du tout. Et à laquelle vous ne vous attendez pas. Vous ne vous attendez peut-être pas non plus. En fait, comme nous allons le voir ce matin, aussi surprenant que cela puisse paraître, la réponse de Dieu à Job, vous savez ce que c'est? Ce sont des questions. Depuis le chapitre 3, pour comprendre le sens de ses souffrances, qu'est-ce que Job a fait? Il a posé une soixantaine de questions à Dieu. Pourquoi? 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 60 fois. Des chapitres 3 à 31. Dans les chapitres 38 à 42, les chapitres que nous allons lire ce matin, est-ce que vous savez ce que Dieu fait pour répondre à Job? Il lui pose une soixantaine de questions à son tour. C'est pas marrant ça? Quelle ironie. Des questions rhétoriques sur les autruches, l'hippopotame et le crocodile notamment. Et si vous connaissez ce passage dans le livre de Job, vous vous êtes peut-être déjà posé ces questions. Mais quel rapport? Attends, je comprends pas bien là. Quel rapport entre les questions que Job se pose sur la souffrance injuste et la réponse de Dieu dans ces versets? Autrement dit, comment les autruches, les hippopotames et les crocodiles répondent-ils au problème de la souffrance injuste auquel Job est confronté depuis le début du livre? Vous comprenez ce que je veux dire? Quel rapport? Comment comprendre? Je pense que dans ces versets, pour essayer de résumer les choses, Dieu est tout simplement en train de dire à Job, écoutez bien, c'est très compliqué, je pense que dans ces versets, Dieu est tout simplement en train de dire à Job qu'il est Dieu. La réponse de Dieu à Job, ce n'est pas une théorie, c'est lui-même. Dieu est Dieu. Et c'est ce que j'aimerais vraiment voir avec vous ce matin. Dieu est Dieu. Au dos de vos bulletins, vous avez le plan de ce message qui, j'espère, vous aidera non seulement à suivre, mais aussi peut-être à prendre des notes ou à poser des questions. Nous allons voir dans un premier temps la première réponse de Dieu à Job, ou plutôt la première question, qui gère une création mystérieuse? Dans un deuxième temps, qui maîtrise les créatures monstrueuses? Premièrement donc, du chapitre 38, verset 1, au chapitre 40, verset 5, Qui gère une création mystérieuse? C'est la première réponse, ou plutôt la première question de Dieu dans laquelle il est très, très ironique. Regardez simplement les versets 4 et 5 du chapitre 38 avec moi. Job 38, versets 4 et 5. Où étais-tu, Job, quand j'ai fondé la terre? Déclare-le, puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ses dimensions? Tu le sais, n'est-ce pas? Ou qui a déplié le ruban à mesurer sur elle? voyez comment dans ces versets, Dieu est quand même très ironique, mais il est aussi très très pédagogique. Il invite Job à reconnaître qu'il est Dieu, Dieu est Dieu, en lui faisant faire le tour du monde, non pas en 80 jours, si vous avez lu le roman de Jules Verne, vous voyez à quoi je fais référence, mais en deux chapitres, en attirant son attention sur une sélection de phénomènes naturels qu'il gère parfaitement et dont il est le seul, l'unique, à gérer les mystères. Regardez les versets 4 à 7 du chapitre 38 encore, à partir du verset 6. Sur quoi les bases reposent-elles, les bases de la création? Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? C'est vachement beau, n'est-ce pas? Mystère de l'origine de la création, qu'aucun homme n'a jamais observé. Et puis regardez les versets 8 à 11, dans la foulée. Qui a bloqué la mer avec des portes, quand dans son jaillissement, elle est sortie du ventre maternel? Quand j'ai fait des nuages son habit, et de l'obscurité ses langes? Quand je lui ai fixé des limites et imposé verrous et portes? Quand j'ai dit, tu pourras venir jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin, ici s'arrêtera l'orgueil de tes vagues? Mystère de l'origine de la mer, magnifiquement comparé à un accouchement. Qui maîtrise, qui gère ce mystère? Mystère de l'apparition quotidienne du matin et de l'aurore. Regardez les versets 12 à 15. Depuis que tu existes, as-tu donné des ordres au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle attrape les bords de la terre et que les méchants en tombent? Tout se transforme alors comme l'argile qui reçoit une empreinte. Et l'ensemble se présente comme paré d'un habit. Quant aux méchants, ils sont privés de leur lumière. Et le bras prêt à agir est brisé. Mystère des royaumes souterrains inaccessibles des versets 16 à 18. Mystère de la lumière et des ténèbres, dont la source est absolument inconnue des hommes, versets 19 à 21. Mystère de la neige, qu'on pourrait peut-être lire, mais nous n'avons pas le temps. De la grêle, du chemin de la lumière, des averses, des éclairs, du tonnerre. Je regardais un reportage sur les tonnerres il y a quelque temps sur la cinquième, je n'avais pas grand-chose à faire. C'est incroyable hein, le tonnerre, c'est incroyable un éclair. 40 000 km par seconde, vous savez, on l'a vu il y a deux semaines, la vitesse à laquelle peut aller un éclair, 40 000 km par seconde, il peut mesurer jusqu'à 20 km, c'est extraordinaire. Les scientifiques ne savent pas très bien comment comprendre la naissance, l'origine d'un éclair. Mystère de la pluie qui tombe sur une terre inhabitée. Pourquoi la pluie tombe parfois sur des terres inhabitées? Mystère de la glace, des Pléiades, d'Orion, des constellations du zodiaque, de la grande ours, de la petite ours, des règles du ciel. Qui est à l'origine de toute cette création mystérieuse? Qui la connaît comme sa poche? Qui sait la gérer à merveille? En d'autres termes, vous voyez ce que Dieu est en train de dire. Mais qui est Dieu, Job? C'est toi ou c'est moi? Qui est Dieu? Qui gère une création mystérieuse? Vous voyez comment dans ces versets, Dieu est vraiment très très pédagogique. Job est à son école et la salle de classe, en fait c'est le monde, la création dans laquelle il vit, dans laquelle nous vivons, aujourd'hui. Et à partir de verset 39, c'est un peu comme dans 30 millions d'amis. Vous connaissez cette émission de télé qui raconte comment un petit chat a été retrouvé sur la route et comment un vétérinaire lui a fait du bien. Ou dans Histoire naturelle, vous connaissez cette émission qui raconte un petit peu comment un biche et un faon se rencontrent un jour et bref. En fait, le tour du monde continue, c'est très intéressant dans ces versets, le tour du monde continue, mais Dieu attire cette fois l'attention de Job, non pas sur une sélection de phénomènes naturels, mais sur une sélection d'animaux un peu bizarres, et dont l'existence constitue un véritable mystère pour les hommes, et dont cette existence ne dépend en aucun cas de leur influence. Regardez les versets 39 et 41 du chapitre 38. Job 38, en fait les derniers versets du chapitre 38, 39 à 41. Job, chasses-tu la proie pour la lionne et satisfais-tu l'appétit des lionceaux? Quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont aux aguets dans leur repère, qui prépare au corbeau sa nourriture quand ses petits crient vers Dieu et vacillent, affamés? Autrement dit, qui a chassé la proie de la lionne et du corbeau ce matin pour satisfaire leur appétit et ceux de leurs petits? C'est pas moi en tout cas. C'est Dieu qui les nourrit. Regardez les quatre premiers versets du chapitre 39. Sais-tu quand les bouquetins font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent et connais-tu l'époque où elles mettent bas? Elles se courbent, libèrent leurs petits qui sont délivrés de leur douleur. Leurs petits prennent des forces et grandissent en plein air. Puis ils s'éloignent et ne reviennent plus L'RL. Autrement dit, ce matin, est-ce que vous savez qu'un petit bouquetin est né dans les monts du Lyonnais? Vous l'avez vu en venant? J'habite à Francheville, j'ai rien vu passer. Mais qui est au courant de ces choses-là? Qui est au courant qu'un bouquetin est né dans les monts du Lyonnais, dans les Alpes ou dans les Pyrénées? Qui est au courant? Vous voyez, seul Dieu supervise la naissance et la croissance de ces animaux qui vivent loin des hommes. Regardez les versets 13 à 18 de ce même chapitre 39, versets 13 à 18. L'aile des autruches se déploie joyeusement. On dirait l'aile le plumage de la cigogne. Cependant, l'autruche abandonne ses œufs à la terre et les laisse chauffer sur la poussière. Elle oublie qu'un pied peut les écraser, qu'une bête sauvage peut les piétiner. Elle traite durement ses petits comme s'ils n'étaient pas à elle. Elle n'est pas inquiète à l'idée d'avoir travaillé pour rien. En effet, Dieu lui a refusé la sagesse. Il ne lui a pas attribué l'intelligence. Quand elle se dresse et prend sa course, elle se moque du cheval et de son cavalier. Écoutez bien, mais pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il pris la peine de créer un animal aussi stupide, aussi ridicule et aussi inutile qu'une autruche? Je pourrais très bien me passer d'une autruche dans ma vie, pas vous? Même si les steaks qu'on en fait sont apparemment succulents, je pourrais très bien me passer d'une autruche. Pourquoi Dieu a pris la peine de créer un animal aussi stupide et ridicule et inutile? Pourquoi? Réponse, tout simplement parce qu'il fait ce qu'il veut. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il a créé certains animaux, dont l'autruche, non pas pour satisfaire notre propre cause, non pas pour servir notre propre cause, mais pour servir la sienne. Vous voyez comment dans ces versets, Dieu attire vraiment l'attention de Job sur cette sélection d'animaux et qu'il invite à reconnaître qu'il est tout simplement Dieu. Qu'il est Dieu. En attirant son attention sur une création dont il est le seul à connaître les mystères. Une création qui ne dépend en aucun cas de notre influence pour exister et qu'il gère parfaitement tout seul, sans avoir besoin de quelqu'un d'autre. Comment vous sentiriez-vous après avoir assisté à un tel spectacle? Eh bien, après avoir assisté à un tel spectacle, Job semble avoir compris le message. Regardez les 5 premiers versets du chapitre 40. C'est très intéressant. Comment Job réagit-il? Chapitre 40, versets 1 à 5. L'Éternel reprit la parole et dit à Job, « Le faiseur de reproches va-t-il faire un procès au Tout-Puissant? Celui qui veut corriger Dieu va-t-il répliquer ?» Il s'agit de Job, là. Job répondit à l'Éternel, « Je ne fais pas le poids. Que pourrais-je te répondre? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, mais je ne répliquerai plus. Et même deux, mais je n'ajouterai rien. » Autrement dit, mais qui est Job pour faire des reproches à Dieu? Mais qui est-il? Pour qui se prend-il? Qui est Job pour faire des reproches à Dieu comme il l'a fait au chapitre 19 et au verset 27 notamment? Pour lui faire un procès, vous vous rendez compte? Pour le corriger. Est-il capable de faire tout ce que Dieu fait, de comprendre, de gérer tous les mystères de l'univers? En d'autres termes, est-ce que Job est capable d'être Dieu? S'il est capable, ses reproches sont parfaitement justifiés. Mais s'il n'est pas capable de gérer cette création mystérieuse et de faire ce qu'il va suivre, ce que Dieu va dire, ses reproches sont parfaitement injustifiés. Job semble vraiment avoir compris le message. Vous savez, aujourd'hui, parfois, je m'écrase. Il s'écrase. Il reconnaît sa petitesse, mais il ne réagit pas encore comme il le fera plus tard. Dieu va donc continuer à lui parler. C'est le du dernier point. Deuxième point. À partir du chapitre 40 du verset 6 jusqu'au chapitre 42 verset 6, qui maîtrise les créatures monstrueuses? Qui maîtrise les créatures monstrueuses? C'est donc la deuxième réponse, ou plutôt la deuxième question de Dieu, dans laquelle il est toujours aussi ironique. Regardez simplement les versets 6 à 14 du chapitre 40. Chapitre 40, versets 6 à 14. L'Éternel répondit encore à Job du milieu de la tempête et dit, « Mets donc une ceinture autour de ta taille, comme un vaillant homme. Je t'interrogerai, tu me renseigneras. Voudrais-tu casser mon jugement? Voudrais-tu me condamner pour te donner raison? As-tu un bras pareil à celui de Dieu, une voix tonnante comme la sienne? Pars-toi donc de fierté et de prestige. Habille-toi de majesté et de splendeur. Déverse le trop-plein de ta colère et d'un regard abaisse ceux qui font les fiers. D'un regard humilié tous les fiers. Écrase sur place les méchants, cache-les tous ensemble dans la poussière et enferme-les dans un endroit caché. Alors moi-même, je te rendrai hommage, parce que le salut te sera venu de toi-même. » Vous avez vu encore une fois ce que Dieu dit, Job, vas-y, essaye d'être Dieu. essaye d'être vu. En lisant ces versets, je ne peux m'empêcher de penser à un film que j'ai vu récemment avec Jim Carrey. Ce film, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est Bruce, du Bruce Tout-Puissant. C'est l'histoire de Bruce Nolan, je vous résume vite fait l'histoire, hein. C'est un film assez marrant. L'histoire de Bruce Nolan, un journaliste pour une chaîne de télé locale en Amérique, qui a vraiment tout pour être heureux. C'est un journaliste dont les reportages sont assez marrants, qui a un certain succès, il est drôle, il est original, il vit avec une fille qu'il aime. Mais tout bascule le jour où il apprend qu'il n'a pas décroché le job de ses rêves, être le David Pujadas, le Harry Roselmack, le présentateur du journal télévisé. Vous savez, un petit peu le présentateur vedette. Et là, il commence à en remettre en question la justice de Dieu et à contester la façon dont il gère le monde. Pourquoi? Et là, Dieu lui lance un défi. Vous vous rappelez, si vous avez vu le film, il lui lance le défi d'être Dieu, tout simplement. Il lui propose d'avoir tous les pouvoirs, d'où le titre des films, Dieu Tout-Puissant, Bruce Tout-Puissant. Il lui propose de diriger le monde, d'être Dieu. Et le résultat est, comment dire, légèrement catastrophique. Alors, je ne suis pas du tout en train de comparer Job à Jim Carrey, hein, pas du tout, mais c'est un peu le même défi. C'est un peu le même défi que Dieu lance à Job dans ses versets. Est-il bien passé pour casser le jugement de Dieu, pour contester sa façon de gérer le monde, pour remettre en question sa justice, verset 8? Est-il capable d'exercer la justice sur la terre, d'abaisser, d'humilier les fiers, verset 11, d'écraser les méchants, verset 12? En d'autres termes, Job est-il capable d'être Dieu? Tout simplement, réponse, non, seul Dieu est capable d'être Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Seul Dieu est assez puissant, assez fort pour maîtriser les créatures les plus fières de sa création, dont le Béhémoth et le Léviathan sont les plus puissantes, les plus terrifiantes et les plus monstrueuses. Si vous avez lu ces chapitres dans le livre de Job, est-ce que vous avez remarqué ces deux bestiaux, le Béhémoth et le Léviathan? Le Béhémoth, en hébreu, ça veut dire les bêtes, c'est un nom en fait pluriel, hot, c'est la marque du pluriel en hébreu, le plus féroce des animaux terrestres. Souvent associé à l'hippopotame. Vous voyez ce que je veux dire, un gros hippopotame, quoi. Et le Léviathan, là aussi c'est un mystère. Qui se cache derrière ce Léviathan? C'est pas facile. Il s'agit du plus terrifiant des animaux marins, souvent associé au crocodile. Un peu comme un crocodile d'Indie, vous savez, ce film qui est un tabac il y a quelques années. Même si certains détails font vraiment passer à un dragon. Un peu comme le dragon dans La Belle au bois dormant. J'ai relu La Belle au bois dormant récemment. Vous savez, à un moment, la sorcière se transforme en un dragon absolument terrifiant. Eh bien, je vous propose simplement de lire quelques caractéristiques. Le Béhémoth, chapitre 40, juste quelques versets, à partir du verset 15. « Voici l'animal par excellence que j'ai créé. Tout comme toi, il mange de l'herbe comme un bœuf. Vois, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il raidit sa queue comme un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés, ses os sont des tubes de bronze, ses membres sont parés à des bras de fer. Il est le chef-d'œuvre de Dieu, celui qui l'a fait l'a pourvu d'une épée. » Et puis le Léviathan, à partir du verset 25, regardez. « Prendras-tu le Léviathan à l'hameçon, lui attacheras-tu la gueule avec une corde, mettras-tu une baguette dans ses narines, lui transperceras-tu la mâchoire avec un crochet, t'adressera-t-il de nombreuses supplications, te parlera-t-il d'une voix douce, conclura-t-il une alliance avec toi, pourras-tu le prendre comme esclave pour toujours? » Et puis à partir du verset 1 du chapitre 41, « Tout espoir de le vaincre est trompeur. À son seul aspect, n'est-on pas terrassé? Si personne n'est assez courageux pour aller exister, qui donc pourrait me résister ?» En face, et puis la dernière partie du chapitre 41, sous son ventre se trouvent des pointes aiguës. On dirait une herse qu'il traîne sur de la vase. Il fait bouillonner le fond de la mer comme une marmite. Il l'agite comme un vase rempli de parfums. Il laisse auprès de lui un sentier lumineux. Les flots prennent une teinte blanche. Sur la terre, personne n'est son maître. Il a été créé pour n'éprouver aucune peur. Il défie tout ce qui est grand. Il est le roi des plus fiers animaux. Autrement dit, entre nous, il faudrait être fou, il faudrait être complètement taré, il faudrait être complètement fada si vous habitez à Marseille. Il faudrait être fou pour dépenser plus, non. Il faudrait être fou pour se croire capable de maîtriser une créature aussi puissante, aussi terrifiante, aussi monstrueuse. que le Léviathan, seul Dieu en est capable. C'est un peu comme si Frodon, Aragorn, Boromir, Gimli et Legolas, vous voyez où je veux en venir, s'étaient cru capables de maîtriser le Balrog dans Le Seigneur des Anneaux. Souvenez-vous, nous sommes dans le premier épisode de la trilogie du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Si vous n'avez pas lu le livre, je vous encourage vraiment à lire le livre ou sinon à voir la trilogie qui a été mise en scène par Peter Jackson. La communauté de l'anneau est formée. Frodon, qui est un hobbit, et ses amis font route vers Mordor pour détruire un anneau maléfique, d'accord, qui ne peut être détruit que là où il a été créé, quoi, dans le royaume du mal, à Mordor. La communauté de l'anneau fait route vers Mordor, et là il passe par les mines de la Moria. Vous vous rappelez, c'est un peu le fief du nain Gimli. Et à un moment donné, il se retrouve nez à nez face à un Balrog. Vous vous rappelez, il arrive, une créature antique, démoniaque, terrible, avec un fouet de feu, quoi. Imbattable, ne vous approchez surtout pas. C'est une créature complètement invincible, que personne ne sera capable de vaincre. C'est un peu comme si Frodon et ses amis s'étaient cru capables de vaincre le Balrog avec leur lance-pierre et leur arc. Alors je suis conscient que cette illustration a vraiment des limites. Il n'y a pas de dualisme dans la Bible. Le Dieu de la Bible est un Dieu souverain, tout-puissant, qui n'a pas de rival. D'accord ? Au ciel, il n'y a qu'un seul chef. Il n'y a pas de rivalité entre Dieu d'un côté et de l'autre les puissances des ténèbres. Dieu est le Dieu qui est au-dessus de tout ça. C'est le Créateur de qui dépendent toutes ces créatures. Je suis conscient que cette illustration a ses limites, mais elle a peut-être en tout cas le mérite de nous aider à comprendre que seul lui est assez fort, assez puissant, pour maîtriser les éléments les plus terrifiants, les plus monstrueux, les réalités les plus chaotiques, les plus incompréhensibles de la création dans laquelle nous vivons. Et qu'il invite Job tout simplement à lui faire confiance. Tout simplement. À lui faire confiance pour maîtriser ce qu'il ne peut pas maîtriser. À lui faire confiance pour comprendre ce qu'il ne peut pas comprendre. Le problème de la souffrance injuste notamment. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est Dieu. Tout simplement. Parce qu'il est Dieu. J'aimerais vous lire l'un des articles de la Confession de foi de La Rochelle. La Confession de foi de La Rochelle, c'est une confession de foi très importante dans l'histoire de l'Église, qui a été rédigée en 1559 dans un contexte vraiment de persécution. Les chrétiens ont été persécutés, je pars sous le contrôle d'Alex et de plusieurs autres personnes, mais c'est une confession de foi qui est très importante, et j'aimerais vous lire l'article sur la Providence. Et j'aimerais vraiment, au fur et à mesure que nous allons lire cet article, que vous puissiez vous sentir de confesser ces paroles dans le secret de vos cœurs, si vous êtes d'accord, ok ? La providence de Dieu. Écoutez bien. Nous croyons non seulement que Dieu a créé toutes choses, mais qu'il les gouverne et les conduit, disposant de tout ce qui arrive dans le monde et réglant tout selon sa volonté. Certes, nous ne croyons pas que Dieu soit l'auteur du mal ou que la culpabilité puisse lui être imputée, puisqu'au contraire, sa volonté est la règle souveraine et infaillible de toute droiture et de toute justice vraie. Mais Dieu dispose de moyens admirables pour se servir des démons et des impies, de telle sorte qu'il sait convertir en bien le mal qu'ils font et dont ils sont capables. Ainsi, en confessant que rien ne se fait sans la providence de Dieu, nous adorons avec humilité les secrets qui nous sont cachés, sans nous poser de questions qui nous dépassent. Au contraire, nous appliquons à notre usage personnel ce que l'Écriture sainte nous enseigne pour être en repos et en sécurité. Car Dieu, à qui toutes choses sont soumises, veille sur nous d'un soin paternel, qui ne tombera pas un cheveu de notre tête sans sa volonté. Ce faisant, il tient en bride les démons et tous nos ennemis, de sorte qu'ils ne peuvent nous faire le moindre mal sans sa permission. Est-ce que vous vous êtes déjà laissé réconforter par la providence de Dieu, par sa souveraineté absolue? Quel réconfort que savoir que le Dieu en quel nous croyons, et si vous ne croyez pas en ce Dieu, je vous invite vraiment à placer votre confiance en lui. Quel réconfort de savoir que notre Dieu est souverain, qu'il maîtrise toutes choses, qu'il est le Créateur, le Maître de l'univers, que rien ne le surprend, que rien n'échappe à son contrôle. Êtes-vous prêt, ce matin, à lui faire confiance pour pour maîtriser ce que vous ne pouvez pas maîtriser dans votre vie, pour comprendre ce que vous ne pouvez pas comprendre. Et je m'adresse à moi-même en même temps. Un examen raté, ça m'est arrivé. Une année redoublée, ça m'est arrivé. Je pourrais vous raconter mon témoignage pour vous raconter comment le Seigneur s'est servi de mon année de redoublement pour m'attirer à lui. Si je n'avais pas redoublé, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Un avenir incertain, on ne sait pas trop de quoi demain sera fait. Une maladie soudaine, comment est-ce que vous gérez ces situations? Comment est-ce que vous les gérez? Est-ce que vous êtes prêt, est-ce que je suis prêt à abandonner entre les mains de Dieu? Est-ce que je suis prêt à remettre à ses pieds les questions qui me dépassent? Les questions sans réponse, les questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Les pourquoi qui peuvent parfois me pourrir la vie, qui parfois peuvent vous pourrir la vie. Et vous empêcher d'aimer Dieu pour ce qu'il est. Vous comprenez? Ces questions, les pourquoi peuvent nous pourrir notre vie. Elles peuvent vraiment nous empêcher d'aimer Dieu pour ce qu'il est. Êtes-vous prêt tout simplement à laisser Dieu être Dieu dans votre vie? C'est en tout cas ce que Job fait. J'aimerais lire avec vous la dernière partie pour finir du livre de Job, ce qui nous permettra de conclure cette série à partir du chapitre 42. Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute-moi et je te parlerai. Je t'interrogerai, tu me renseigneras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. » Parenthèse, Job ne se repent pas de ses péchés là. Il se répand simplement de la façon dont il a contesté, à mon avis, la justice de Dieu et peut-être de ses lamentations que Dieu a transformées en adoration. Fin de la parenthèse. Verset 7. Après avoir adressé ces paroles à Job, l'Éternel dit à Eliphaz de Théman, « Je suis en colère contre toi et contre tes deux amis parce que vous n'avez pas parlé de moi correctement comme l'a fait mon serviteur Job. » Dieu répétera ça à une reprise jusqu'au verset 8. À partir du verset 10. L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. Il lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciennes connaissances de Job vinrent tous lui rendre visite et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils lui exprimèrent leur compassion et le réconfortèrent à cause de tout le malheur que l'Éternel avait fait venir sur lui. Chacun lui donna une pièce d'argent et un anneau d'or. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job, beaucoup plus que la première. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses. Il eut aussi 7 fils et 3 filles. Il appela le premier Jemima, la deuxième Ketsia et la troisième Keren Apuk. Dans tout le pays, on ne trouvait pas d'aussi belles femmes que les fils de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et ses descendants de ses fils jusqu'à la quatrième génération. Puis il mourut, âgé et rassasié de jour. Après avoir rétabli Job moralement, Job est rétabli moralement devant ses amis. Ses amis lui avaient dit, Job, tu es coupable devant Dieu, repens-toi. Qu'est-ce que dit Dieu? Les amis, vous êtes coupables devant moi, repentez-vous. Quelle ironie. Et Job a prié pour vous. Après avoir rétabli Job moralement, Dieu le rétablit physiquement et socialement par pure grâce. Alors qu'il n'a jamais rien demandé. Job n'a jamais demandé à être guéri dans le livre. Jamais. Tout ce qu'il a demandé, c'est que Dieu lui parle. Tout ce qu'il a demandé, c'est qu'il soit en relation avec lui. Et vous voyez, ce rétablissement de Job est très très important dans les livres. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le signe que la souffrance n'aura pas le dernier mot dans la vie de ceux qui ont placé leur confiance dans le Dieu de la Bible. La souffrance n'aura pas le dernier mot. Dans la Bible, je suis tout à fait d'accord pour dire que Dieu ne nous a pas peut-être pas donner de réponse théorique. Si Dieu existe, pourquoi le mal? On m'a posé cette question à peu près 1 million de fois. Et il faut avouer que Dieu ne donne pas de réponse théorique dans la Bible. Le mal existe parce que A plus B. Mais il a fait quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus précieux que de nous donner une réponse théorique. Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est donné lui-même. Lui-même. Dans la personne de son Fils. Le Seigneur Jésus. Non pas simplement pour nous donner une réponse théorique au problème du mal, mais pour le vaincre et pour nous en délivrer. La réponse de Dieu à la souffrance, c'est lui-même, dans la personne de son Fils, le Seigneur Jésus, par amour pour nous, par amour pour vous et tout en étant parfaitement juste. Dieu a permis que son Fils, rendez-vous compte, écoutez bien, que son propre Fils le juste par excellence, qui n'avait jamais péché, Dieu fait homme, souffre et soit crucifié à votre place, à ma place, pour que nous soyons pardonnés de nos péchés, pour que nous puissions être en relation avec lui, et pour que nous puissions être avec lui pour l'éternité dans une création où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Et c'est en ce Dieu-là que je vous invite à placer votre confiance, si vous l'avez déjà fait, ou à replacer votre confiance, et à trouver le réconfort dont vous avez besoin. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, c'est toi le créateur de l'univers, le maître du temps et des circonstances. C'est toi qui gères une création mystérieuse qui ne dépend en aucun cas de notre influence. C'est toi qui maîtrises les créatures monstrueuses, puissantes, terrifiantes, les réalités chaotiques, incompréhensibles de la création. Nous prions que tu nous aides à te faire confiance, à te laisser être Dieu dans notre vie, pour maîtriser ce que nous ne pouvons pas maîtriser, pour comprendre ce que nous ne pouvons pas comprendre, pour que nous puissions t'aimer pour ce que tu es, et pour qu'ainsi tu sois glorifié, honoré. Et tout cela, nous le demandons au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.